Europe 1. Ondelat raconte. Christophe Ondelat.
Camille Lacour a décroché 5 fois le titre de champion du monde de natation. Et il raconte sa carrière dans un livre paru chez Michel Lafon, 50 nuances de bleu. J'en ai tiré un épisode passionnant qui remonte à 2010 quand au championnat d'Europe de Budapest, il récolte 3 médailles d'or en une semaine. Et d'un coup, sa vie change. Il devient une vedette. Les femmes l'adulent. Et il raconte tout ça avec beaucoup de sincérité. Il sera là tout à l'heure. La réalisation est de Céline Lebras.
Europe 1, Christophe Ondelat.
Budapest, Hongrie, mercredi 11 août 2010. Finale du 100 mètres d'eau des championnats d'Europe. J'entre dans la chambre d'appel. Certains disent qu'une course se gagne ou se perd dans cette pièce. Retiré, monacal. Le directeur du Cercle des nageurs de Marseille dit que je suis un killer en chambre d'appel. Je sais pas comment il sait ça. Il ne m'y a jamais vu. Mais il est comme ça, Jean-François. Quand il ne te voit pas, il te flaire comme un sanglier corse. En chambre d'appel, ma stratégie est de ne rien manifester. Rien. Je veux juste exposer ma tranquillité. Mais à l'intérieur de ma bulle, je suis un autre. Je suis le meilleur. Je suis le plus beau. Je suis le plus fort. Quand je passe en mode compétition, fini le gentil Camille. Un athlète n'est pas un type souriant ou sympa. Mon double détestable apparaît. Il est arrogant. Il est infect. Je pars en guerre. Sachez-le maintenant, en chambre d'appel. Je vais vous tuer. On est 8 dans cette chambre d'appel. Tous les autres sont debout. Alors moi, je prends une chaise. Je ne perdrai pas cette finale. Je ne perdrai pas cette finale. On nous présente à la foule, dans l'ordre inverse des qualifiés.
Camille Lacour, France.
J'entre donc le dernier, tout au bout de la piscine. Mes adversaires sont déjà en maillot, et moi, je suis tout habillé. J'ai encore mon survêt, mon t-shirt et mes chaussures. Je les regarde et mentalement je leur dis « Oh, ne me pressez pas, hein ? C'est moi qui donne le tempo. » Et là j'enlève ma chaussure sans me presser, ma chaussette, mon autre chaussure, à mon rythme. C'est ma course. Je sais que c'est un pince-somme pour eux, mais c'est mon timing. Et quand j'enfile mes lunettes, il y a un peu de buée. Je recule, j'attrape ma bouteille, je rince. Ma mère m'a observé à la télé au bord de cette finale. Elle m'a dit « Je t'ai jamais vu avec un regard aussi noir, aussi effrayant, jamais. » Elle a raison. À ce moment-là, je ne suis plus l'enfant de personne. Je suis un animal dans le couloir de sa victoire. Bon départ. Je sors de l'eau à 14,80 m, la limite. Maintenant j'accélère. Je me donne, je frôle la ligne d'eau. Virage, coulée à pic, à fond. Je sens les autres loin, si loin. Je sais déjà que je vais gagner. L'instant est magique, magique. Une joie, une liberté, une beauté. J'ai touché le premier, je m'enfonce dans l'eau. Je suis bien. Champion d'Europe, mon ami. Ça y est. Et là, j'émerge. Je vois s'afficher le record d'Europe.
Incroyable sensation, ici, à Budapest. Camille Lacour, champion d'Europe.
Je viens de battre le record d'Europe. Je suis content. Mais en vrai, je n'éprouve rien. C'est pas ce que je croyais. J'espère une explosion, elle n'arrive pas. Je lève un bras, j'enlève mon bonnet. Oui, c'est bien. C'est bien. Mais je reste le spectateur de ce que je viens de vivre. Je sors de l'eau, sobrement. Et là, un type, un Français, déguisé en Superman, me tombe dans les bras. Oh, c'est trop bien! C'est trop bien! Ce type est plus heureux que moi. Je n'ai jamais parlé à personne de cette étrange déception, la mélancolie du vainqueur. On ne peut pas parler de ça avec des gens qui n'ont jamais remporté un titre. Ma joie de champion est différée. Je la reçois des autres. Elle n'émane pas de moi. En tout cas, c'est à ce moment-là que je deviens célèbre. Le lendemain, dans les journaux, il y a une photo. Une photo prise pile au moment où j'étais dans l'attente de cette vague extraordinaire qui ne venait pas. Je suis en train d'enlever mon bonnet, de libérer mes cheveux et un rayon de soleil oblique traverse la piscine. Et cette photo dans les journaux est accompagnée de titres. Le beau gosse de la natation, le golden boy des bassins, le Gary Cooper du 100 mètres. Et je suis à la une de l'Équipe. Moi qui punaisais les posters de mes champions dans ma chambre d'ado, maintenant c'est moi qui vais faire rêver d'autres petits gars passionnés de natation. Il y a tout de même deux phrases dans l'article de l'Équipe qui me restent en travers de la gorge. Je vous les lis. Le Marseillais de 25 ans s'amuse à faire trembler les frontières chronométriques du dos. De quoi susciter l'admiration, virgule, mais aussi les interrogations. Et plus loin, le parcours du Français et sa progression font causer. C'est signé Benoît Lallemand. Je le connais. Ça fait des années qu'il nous empoisonne la vie, nous les nageurs du Cercle de Marseille. Qu'est-ce qu'il sous-entend? Que je suis dopé? Personne ne peut comprendre ce que c'est que cette sensation d'être sali par la presse. Cette saloperie est écrite noir sur blanc. Et les publics, ta famille, tes copains, ton voisin vont le lire. C'est du poison. Je tape la cour dopage sur Google pour voir si quelqu'un a repris ça. Rien. Nulle part. Alors j'essaye d'oublier, sans y parvenir. Romain, mon entraîneur, me sent perturbé.
Camille, ne perds pas d'énergie avec ce type qui nous déteste. Passe au-dessus, sinon tu vas devenir dingue.
Le lendemain, je remporte la demi-finale du 50 mètres d'eau. Et qui je vois au milieu des journalistes de presse écrite? Benoît Lallemand, voûté comme un vautour.
Et du con! Au lieu d'écrire de la merde, viens ici écouter ce que j'ai à te raconter, connard.
Je sais, je parle mal. Quoi qu'il en soit, le vautour détourne le bec, comme s'il n'avait rien entendu. Je prends mon élan pour sauter la barrière, une main s'abat sur mon épaule, c'est mon entraîneur, Romain Barnier.
Bouge pas, Camille. Bouge pas. Tu réponds aux questions tranquillement. Demain, t'as une course à gagner. C'est pas lui qui va te ruiner ça. Hein?
Moi? Moi, je l'aurais défoncé. C'était pas Hercule, en plus. Romain m'a aidé à garder la tête froide. Enfin, disons tiède. Le 50 mètres d'eau est l'épreuve dans laquelle je suis le plus à l'aise. Vu mon temps de passage aux 100 mètres, j'ai de la marge. Au moment où je vais vers le bus, Romain en rajoute une couche. Tu refais le coup du 100 mètres, hein? Tu gagnes la finale sans même la faire, d'accord? Je me présente 2 heures avant la course. Et au moment de me changer, je m'aperçois que j'ai oublié mon maillot. Dis Romain, excuse-moi, tu peux aller vite demander à Fred s'il n'a pas un deuxième maillot? C'est pas possible. Tu peux pas avoir oublié ton maillot le jour d'une finale de championnat d'Europe? Non mais tu peux pas avoir oublié ton maillot le jour d'une finale de championnat d'Europe? Heureusement, Fred le prévoyant a un deuxième maillot. Non mais il peut pas avoir oublié son maillot une finale de championnat d'Europe? Il peut pas!
C'est parti pour cette finale du 50 mètres d'eau avec Camille Lacour qui va tenter un formidable doublé.
J'ai gagné. Je lève la tête. Oh zut. J'ai manqué le record du monde de 3 centièmes. Je la refais. Je veux la refaire. Je peux aller les chercher ces 3 centièmes. Je suis passé à côté du Graal. Alors je sors de l'eau en jaugeant mon plaisir. Disons 95% de contentement pour 5% de regret, un zeste d'amertume. Je progresse, hein, dans le bonheur. Mais si on oublie ces foutues combinaisons en polyuréthane, en textile, je suis le recordman du monde. Sur 50 mètres d'eau, je suis le nageur le plus rapide de tous les temps. C'est l'avant-dernier jour du championnat. Demain, c'est le relais 4x100 mètres 4 nages. Les coachs se réunissent dans une salle pour définir l'ordre du relais. La règle non inscrite est absolument limpide, hein. Les nageurs les plus rapides dans chaque nage montent au relais. Mais ça coince sur le crawl. Fabien Gillot a fait le meilleur score au 4x100 mètres. Mais Alain Bernard a décroché le titre de champion d'Europe au 100 mètres. Son entraîneur veut l'imposer. Mais le mien veut que ce soit Gillot. Alors il m'appelle.
Camille ? Salut, bon, ça recommence, hein. Ils veulent mettre Alain en finale. Dis Camille, je te propose un truc. Tu pourrais pas pousser un coup de gueule, genre si Fabien nage pas, je refuse de nager moi aussi, tu peux faire ça ?
Ok Romain, ok. Je le ferai. Quand Fabien l'apprend, c'est gentil Camille. Mais fais pas ça. Tu peux pas manquer un relais pour lequel t'as la plus grande chance de faire gagner la France. Enfin, personne comprendrait. Il a raison. Vu de l'extérieur, pour la presse, pour l'opinion, mon retrait serait inexplicable. Inexplicable. À 23h, nos téléphones bipent. Fabien nage demain. Notre victoire au relais 4x100 4 nages de Budapest a commencé là. On a gagné haut la main, avec plus de 2 secondes d'avance. Au point média, Nelson Montfort nous attend. Et là, Fabien attrape le micro et il balance en direct.
Je voulais juste annoncer à toutes les filles qui fantasment sur Camille et ben qu'il est gay.
J'attrape le micro à mon tour.
Je propose à toutes celles qui veulent de leur prouver le contraire.
On est jeune, on est vainqueur, on est heureux. Et le fait est que j'ai plus de plaisir dans cette victoire d'équipe que dans mes victoires personnelles.
Maintenant, maintenant j'ai hâte de danser. J'ai hâte d'entendre le beat de la musique m'étourdir et j'ai hâte de faire l'amour avec une sirène hongroise. Être libre, jusqu'à m'oublier. Mon père m'a prévenu.
Tu sais Camille, ta vie va changer à Paris.
Je sais, Fabien Gillot me l'a dit, mes coachs me l'ont dit. Mais moi je dis, qui vivra verra. À l'arrivée à Paris, il y a au moins 100 journalistes et des supporters avec leur drapeau. Et ils me collent leur micro sous le nez et je me sens bête. Le choc entre mon anonymat total et ma notoriété brutale est trop violent. Je suis paumé. Je ne contrôle rien. On file participer à Stade 2, puis aux 20h de TF1. et on apprend que demain, le président de la République va nous recevoir à l'Élysée. Le soir, Fred Bousquet nous propose d'aller se faire un McDo. Pourquoi pas ? Quand mon tour arrive de passer la commande, la caissière lève les yeux. Elle est pétrifiée. J'obtiens mon hamburger au milieu des copains morts de rire. On s'assoit à une table près de la vitrine. Je mords dans mon hamburger. Et là, dans la rue, un type prend une photo de moi en train de manger. Et deux jours plus tard, elle est dans le magazine Public. Bienvenue au cirque des famous people. Et donc, le président Nicolas Sarkozy nous reçoit à l'Élysée. Il déboule les bras ouverts. Et c'est pas rien de voir un président foncer vers toi avec enthousiasme. Après, on fait une photo sur le perron. À côté d'Alain et moi qui faisons 2 mètres, il a l'air d'un nain. Et en tout cas, il a l'air plus content de nous recevoir que nous de le rencontrer. Me voilà de retour chez moi, à Marseille. On a fait une sacrée fête cette nuit. Et là, je rentre chez moi au petit matin. Et devant la porte, je tombe sur un couple strict avec une petite valise. Ah, monsieur Lacour, nous n'arrêtons pas de sonner chez vous.
Oui, c'est pourquoi ?
Contrôle antidopage, monsieur.
Comment ? Là ? Maintenant ? Vous voulez me contrôler l'alcool ?
Je viens de faire la bringue toute la nuit. Mais j'ai pas le droit de refuser.
Assurez-vous, hein. On ne va pas contrôler votre alcoolémie. Juste le dopage.
Bon, d'accord. Je vous préviens, hein. Je vais vous pisser autant de vodka que d'urine, hein. Après, je vais me coucher. Et à midi, quand je me réveille, 3 appels en absence. Je rappelle.
Allô? Bonjour, monsieur Lacour. C'est la concession Volkswagen de Marseille, ici. Dites-moi, on a suivi vos exploits, là. Et on serait très heureux de vous prêter une voiture pour vos vacances, voilà.
C'est très gentil à vous. Vous me proposez quoi? Une Golf?
Ah, écoutez, je suis très touché, mais... J'ai une Fiat Punto, alors je vois pas pourquoi changer pour une Golf, vous voyez?
Mais merci d'avoir pensé à moi, c'est très gentil. Je me rendors. Le téléphone sonne à nouveau, même numéro.
Monsieur Lacour ? Rebonjour, dites-moi, je viens de voir avec mon directeur commercial, là. On peut vous prêter le dernier Touareg. 350 chevaux, vitre teintée.
À partir de là, je trouve la célébrité nettement moins pénible, j'avoue. Et après, je suis monté à Paris. Et ses lumières. Romain, mon entraîneur, m'a parlé de son frère, qui a un magasin de vêtements.
Va chez lui, chercher des fringues. Tu peux pas enchaîner les plateaux télé avec la même tenue.
Comme la reine d'Angleterre. Je dois donc disposer d'une garde-robe. Moi qui mettais des t-shirts psychédéliques et des futelles de chez Pantachop. Le directeur du Cercle de Marseille, Jean-François Salessi, que j'appelle désormais Jeff, m'a proposé de s'occuper de moi. Et il me présente Franz Lecomte, qui est l'agent de Yannick Agnel. Je me suis méfié. J'ai eu tort. À la fin de l'été, je me rends compte que je suis devenu un jeune homme qui plaît beaucoup. À la folie, passionnément, surtout aux filles. C'est surréaliste. Quand j'arrive quelque part, c'est comme un cacheton d'aspirine qui tombe dans un verre d'eau. Ça crée une effervescence, une ébullition chez les filles. C'est phénoménal, c'est stupéfiant, et pas désagréable non plus. Et donc dès le dimanche matin, 5h, quand Paname s'éveille, je rentre en enlaçant une beauté. Ça s'annonce cool. Patrick Sébastien m'a invité au plus grand cabaret du monde. C'est bluffant de se retrouver de l'autre côté de l'écran. Et à la fin, tous les invités se lèvent et se mettent à danser.
Est-ce que tout le monde a ses serviettes ? On est prêts ? Ah, la musique !
et celle qui ondule avec moi, d'un coup me glisse la main dans le pantalon.
Oh, qu'est-ce que tu fais ?
Je t'ai mis mon numéro dans ta poche. Appelle-moi si tu veux. Applaudissements, générique. Et là, une deuxième main se faufile dans mon pantalon. Et une troisième. Ah, les girls de Patrick Sébastien. C'est des marrantes. Et donc, je ne suis pas rentré seul. Une quatrième qui m'a sauté sur le poil dans ma loge. Le lendemain, je ne savais plus à quel numéro correspondait quelle fille. Alors j'ai envoyé un texto au pif. Réponse enthousiaste. Message au deuxième numéro, idem. Au troisième, idem. Je suis arrivé dans le jardin d'Éden. On ne me demande jamais un centime. Un café, un repas, c'est gratis. Il y a toujours quelqu'un pour régler l'addition. La maison est toujours fière de nous recevoir. Franz, mon chaperon, ne me lâche pas. Tous les soirs, il me sort dans des endroits en vogue, où je me retrouve comme une pièce de bœuf dans une cage de lionne. On parle souvent des Don Juan et de la libido masculine, mais plus rarement de l'appétit sexuel de certaines femmes. Moi, je l'ai vu, je l'ai connu, et parfois ça m'a pétrifié. Je me suis sali là-dedans. Pas longtemps, mais je me suis sali. Au bout du troisième jour, j'ai senti cette tristesse de la chair sans sentiment. Le dernier jour, Franz m'emmène dans un excellent restaurant. Et je me mets à parler avec le patron en enquillant des mojitos. Je sais pas pourquoi, mais avec lui, je me sens à l'aise. Tu vois, j'ai l'impression qu'en quelques jours, ma vie a un peu tourné au film porno, tu vois. Et je me dis qu'il faut que ça s'arrête, quoi. Dis-moi, Camille, je peux te dire un truc ? T'es un mec bien. J'ai une amie qui m'a appelé. C'est la première fois qu'elle m'appelle pour un truc comme ça. Elle m'a dit, j'ai vu ce mec à la télé. J'aimerais vraiment le connaître. Elle m'a dit, je crois que c'est l'homme de ma vie. Hein ? Ah bon, c'est qui ? Valérie Beg. Mais non.
Si.
Arrête.
Je te dis que si. Valérie Beg, la Miss France.
Arrête, non, je te crois pas. Faut que je te raconte. Tu sais, je suis de Font-Romeu. Tu vois où c'est dans les Pyrénées. Eh ben, un samedi soir, j'étais avec mes parents, on suivait l'élection de Miss France dans le canapé. Valérie Beg est apparue, eh ben, je te jure. J'ai dit à mes parents, elle, c'est la femme de ma vie. J'étais personne.
Et là, il sort son téléphone. Et il me montre son texto. Elle a bien écrit, c'est l'homme de ma vie.
Bon, ce soir je suis sous, ça ne compte pas. Les contes de fées n'existent pas. Et d'ailleurs je rentre avec deux gonzesses, je ne sais même pas comment j'arrive encore à compter. Plus deux donc. Bah ça fait 13. 13 en 8 jours.
Il m'a donné le numéro de Valérie Beg. Je lui ai envoyé un texto. Et le lendemain au réveil, j'ai trouvé sa réponse. Et on a commencé à s'échanger des messages. Je l'ai trouvé. Mais c'est une autre histoire.
Et là, ne vous inquiétez pas, Camille. La pipellerie ne m'intéresse pas du tout. Vous êtes à l'abri des questions intimes. Je ne vais donc pas vous parler de Valérie Beg, avec laquelle vous avez eu un enfant, une vraie relation, une vraie histoire d'amour, etc. Moi, ce qui m'intéresse, c'est un rapport que j'ai l'impression, un rapport un peu surpris, que vous avez avec votre physique et avec votre beauté. Ça, c'est assez touchant de constater ça. Et j'ai une sorte d'intuition que vous avez finalement découvert que vous étiez beau assez tardivement. À 14 ans, vous ne regardiez pas dans la glace, vous ne disiez pas « je suis beau », n'est-ce pas ?
Déjà, je pense que je l'étais pas. À 14 ans, j'ai eu une puberté un peu difficile. J'ai eu des boutons, j'avais les cheveux brûlés par le chlore. Et arrivé vers 20 ans, je savais que je pouvais plaire. Je savais que...
À 20 ans ouais, c'est tard, finalement.
Ouais, 18-19 ans, allez. Ouais. Mais c'est vrai que ça a été assez tard. Et je pense que le fait d'avoir gagné quelques courses a vraiment déclenché autre chose.
Mais vous diriez pas aujourd'hui, comme ça, tranquille pépère, je suis beau.
Je sais que je peux plaire.
Voilà, voilà. Ouais, vous tournez autour du mot.
Oui, je pense qu'il y en a certaines qui doivent me trouver pas beau, donc moi ça ne me dérange pas du tout. Et
en fait, je me suis dit que c'est intéressant, c'est les filles qui vous font savoir que vous êtes beau, comme c'est les autres qui vous font savoir que vous êtes champion d'Europe. Il y a toujours une médiation des autres.
C'est vrai, bah, je pense que sans les autres, on n'est rien déjà, donc peut-être que c'est ça. Je pense que aussi, pour les championnats d'Europe, c'était une joie, mais je m'attendais à une explosion, en fait. J'avais toujours cette image des champions qui tapent dans l'eau, qui avaient une vraie explosion après leur arrivée, et en fait, je m'étais fait un petit peu un film de ça, et quand je gagne, bah, je l'attends. Et pour moi, bah, en fait, les championnats d'Europe, c'était la plus grande course que j'ai gagnée, mais c'était une course que j'ai gagnée, donc...
Un autre petit passage sur lequel je n'ai pas appuyé dans le récit parce qu'il fallait faire un tri. Votre bouquin est très riche, hein. C'est pour ça que je n'ai raconté qu'une toute petite séquence, puisque vous avez décidé de nous donner le in et le off dans ce livre. Mais vous êtes aussi devenu, à l'insu sans doute de votre volonté, une icône gay. C'est-à-dire que puisque vous êtes beau pour tout le monde et tout le monde se régale à vous regarder, quoi. Vous assumez ça ?
J'assume totalement. Et je pense que la blague potache de Fabien Gillot a beaucoup aidé, et surtout sur notre réaction, quoi. Quand on voit un peu les sports collectifs où c'est un peu tabou ici, et, enfin, nous, on n'en avait pas, quoi.
Vous n'en aviez pas. Vous lui en avez voulu sur le moment ?
Pas du tout. S'en est voulu.
Ah.
Lui s'en est voulu. Il a cru que les Français allaient mal interpréter ça, qu'on est justement le contraire, qu'on allait passer pour des homophobes ou quelque chose. Et en fin de compte, ça a fait l'effet tout contraire où les gens. On appréciait notre humour, bah, potache certes, mais en tout cas sans tabou et un peu enfantin.
Alors j'ai été très très intéressé par la première séquence de ce récit, qui est donc la séquence dans la chambre d'appel, qui est cette petite pièce où les concurrents attendent qu'on les appelle à s'approcher du bassin juste avant l'épreuve. Vous avez dans la description de ce qui se passe dans la chambre d'appel des mots extrêmement forts vous concernant. Vous dites « je suis détestable », vous dites « je suis arrogant », vous dites « je suis infect », et vous dites « c'est mon mode compétition ».
Ouais, c'est complètement vrai. C'est vrai que la personne que je suis quand j'affronte la compétition, c'est pas du tout moi dans le monde réel, mais je pense qu'on peut pas être armé pour devenir champion du monde. C'est assez impressionnant, en fait, si on se dit ça. Donc voilà, j'avais vraiment besoin de rentrer dans un personnage pour qui c'était normal de l'être.
Ouais.
Et donc, j'étais obligé de gonfler mon ego, d'être plus fort que les autres et d'en être absolument sûr. Sinon, je me faisais manger. Je pense que la chambre d'appel, c'est un monde de loups. Et si on est un agneau, on n'a aucune chance de s'en sortir.
Mais moralement, ça ne vous plaît pas trop, en fait. C'est ça qu'on sent. Puisque vous l'avez repéré, ce bonhomme détestable, c'est qu'il ne vous plaît pas, s'il vous plaît.
Il me plaît pour la compétition. Après, je sais vraiment que ce n'est pas moi dans la vraie vie. Mais, mais si, il me plaît beaucoup parce que c'est déjà un jeu... J'ai l'impression de jouer un rôle et d'aller à fond dedans. Donc si, ça me plaît aussi d'être un guerrier comme ça, de dégager quelque chose que les autres doivent, peuvent voir, alors que je ne dis aucun mot, dans une attitude très calme et tout ça. Donc c'est quelque chose qui me plaisait énormément de faire.
Vous faites d'ailleurs le parallèle avec le poker dans votre bouquin, en disant que c'est exactement ça qui se joue. C'est comme quand on n'a pas de jeu au poker et qu'on fait croire qu'on en a, ou qu'on en a et qu'on fait croire qu'on n'en a pas. Quoi qu'il en soit, on ment à travers son physique à ce moment-là.
Plus j'avais du jeu et je voulais leur montrer que j'en avais, donc c'était encore plus sympa.
C'est quelque chose ça que vous avez travaillé ou vous êtes devenu comme ça intuitivement ?
Je suis devenu comme ça intuitivement, je pense que c'est toutes les étapes que j'ai eues avant d'exploser en 2010, parce que j'avais commencé la natation bien avant, et je l'ai travaillé après avec un préparateur mental, mais après. Donc,
Étiez déjà comme ça quand vous l'avez travaillé ?
Oui, quand je l'ai rencontré 2 mois après, le préparateur mental, on a discuté de ça, on a perfectionné un peu cette approche que j'avais, mais il m'a clairement dit assez rapidement que là-dessus il n'y avait pas beaucoup de travail à faire, il y en a toujours, donc on a travaillé sur autre chose, mais le mode compétition, c'est toujours quelque chose que j'ai adoré, moi, faire la bagarre en compète comme ça. C'est quelque chose de sain que j'aimais beaucoup.
Et le fait de rester habillé jusqu'au bord de la piscine, ça c'est un truc que vous avez gardé quasiment jusqu'au bout de votre carrière.
Ah, jusqu'au bout, mais même avant d'être connu, quand j'avais pas la chance d'être sur les lignes du milieu, j'avais déjà remarqué que que le tempo dépendait des meilleurs. Donc souvent, il m'est arrivé de rester habillé alors que tous mes collègues... de lignes à côté étaient déjà en maillot parce que le dernier arrivé n'était pas encore déshabillé, donc je préférais rester au chaud et en fait une fois que c'est moi qui ai eu la chance d'arriver en dernier, je me suis dit ok, maintenant c'est mon tempo, et si eux ils ont pas compris qu'il fallait m'attendre à moi, tant pis pour eux, mais moi c'est ma finale,
moment. Il y a pas un mec qui un jour est arrivé a voulu se déshabiller après vous? C'est comme ça qu'on y est encore à 23h, quoi.
Non, parce que le but du jeu, c'est pas de prendre le plus de temps possible. C'est vraiment d'être à l'aise avec soi-même. S'il y a un Américain qui a joué un petit peu avec ça, mais moi, ça me dérangeait pas du tout qu'il soit déshabillé en dernier tant qu'il prenait pas une plombe.
Alors, la course. Il y a un point que j'ai trouvé intéressant dans le récit que vous en faites, c'est que, en fait, à peu près à un tiers de la course, vous savez que vous avez gagné. Et ça, moi, je suis pas sportif, donc c'est un sentiment que je connais pas. Mais ça me surprend beaucoup.
Je sais que physiquement, je vais très bien. Je sais que techniquement, tout se passe très bien. Et c'est vrai qu'au quart de la course... Au 25 mètres, je sais que je vais gagner cette course, à part si je me déconcentre et que je fais vraiment n'importe quoi, mais c'était pas du tout l'optique que j'avais dans ma tête. Ouais. Mais à ce moment-là, je sais qu'il n'y a aucun concurrent qui peut me battre ce jour-là. Donc c'est la course la plus facile que j'ai eue de ma carrière au niveau international, parce que j'étais clairement le plus fort. Et c'est peut-être pour ça aussi que la joie n'a pas explosé, parce qu'il n'y avait pas eu vraiment de confrontation, à part une confrontation contre moi-même.
Ouais. Évidemment, on est très intéressé par le coup de spleen que vous avez après. Ça, moi aussi, pour moi, c'est une immense découverte. Alors, vous dites, on ne peut pas en parler, donc, avec quelqu'un qui n'a jamais fait de compétition, donc vous pouvez pas en parler avec moi, je vous dis tout de suite. Mais est-ce que c'est quelque chose dont vous avez parlé avec d'autres? Est-ce que c'est un sentiment que d'autres ont connu, ou vous êtes un cas unique?
J'en ai parlé ensuite, à la fin de ma carrière, quand j'ai commencé à écrire le livre avec Florent Manodou, Fabien Gillot et d'autres champions. Et apparemment, je suis le seul. Mais je pense que avec le recul, quand j'ai écrit le livre, je l'avais peut-être pas encore. Je pense que c'est vraiment le manque de confrontation. Parce que la bagarre fait qu'il y a plus de...
Ouais, d'adrénaline,
d'adrénaline à l'arrivée.
Ouais.
Et là, je pense que l'adrénaline, elle y était plus. J'étais vraiment dans un mode... un peu en roue libre, en voulant vraiment me dépasser moi-même, mais il n'y avait pas la confrontation directe. Donc je pense que c'est pour ça qu'à la fin, c'était, sans être arrogant, c'était peut-être trop facile.
Ouais. Dans les championnats du monde, vous n'avez jamais retrouvé cette mélancolie?
Non, c'était la seule fois.
La seule fois.
La seule compétition.
Ouais. Ouais. Et c'était la première fois que ça aurait dû jaillir.
C'est ça.
Donc c'est de là que vient évidemment la frustration. Très intéressant aussi, quand vous dites ça, parce que je pense que ça doit... Alors là, pour le coup, ça me paraît assez logique. Que la joie soit différée et qu'elle vienne par les autres, en fait. Que ce soit les spectateurs, les fans, les supporters, qui vous fassent prendre conscience de ce que vous venez de faire. Ça, c'est très intéressant.
Ça, c'est vrai, par contre. J'ai vraiment ressenti... J'ai ressenti que je venais de faire un truc de dingue quand j'ai vu tout le clan français sauter, hurler, limite les larmes aux yeux. Et je me suis dit, waouh, c'est moi qui ai réussi à créer ça. C'est vrai que ce que je viens de faire, c'est un truc de fou. Là, je me suis rappelé où j'étais 3-4 ans avant, quand j'avais été blessé pour les Jeux et tout ça. Et je me suis dit, oui, c'est vrai, je viens d'être champion d'Europe. C'est quand même un moment incroyable. Donc la joie, elle y était, mais c'est vrai qu'il y a eu ce petit côté amer qui était assez inexplicable sur le moment.
C'est vachement bien de l'avoir raconté. D'ailleurs, vous racontez beaucoup de choses dans ce livre que peut-être, une fois que le livre est sorti, vous avez regretté, non? Parce qu'il y a des choses qui sont assez intimes, et puis vous révélez 2-3 histoires dont on va parler dans un instant, après la pub, par exemple, le dopage. Vous avez eu des regrets? Sur les règlements de compte qu'il y a eu dans ce bouquin?
Non, sur le règlement de compte.
L'espèce de transparence, en fait.
Sur le règlement de compte du dopage,
non,
absolument pas.
On va en parler dans un instant. Mais sur la transparence générale?
Peut-être un petit peu, mais je pense que j'étais dans une période de ma vie où j'avais besoin un petit peu de me salir. Et c'est peut-être ce qui a fait... J'aurais peut-être moins parlé perso si c'était à refaire.
Ouais. Si c'était à refaire. Évidemment, il y a une séquence, moi, qui m'a beaucoup marqué. C'est la séance qui se déroule avec ce journaliste de l'équipe que vous nommez, que donc j'ai nommé. Je me réfugie derrière la diffamation faite par Michel Lafon en espérant qu'il ne vienne pas me chercher des noises. Mais vous l'avez nommé, et si vous l'avez nommé, c'est que vous vouliez le nommer, c'est qu'il vous a vraiment blessé. Mais est-ce que vous pouvez comprendre que... il y a tellement de champions qui se sont dopés et qu'on a applaudi, qu'à un moment, chacun se méfie. Est-ce que ça, vous l'entendez?
Je crois qu'on a le droit de se méfier quand il y a de quoi s'en méfier. Moi, je pense que là...
Il n'y avait pas.
Il n'y avait vraiment pas. Enfin, ça sortait de nulle part. Je pense que c'était simplement une vengeance qu'il avait par rapport à des... de l'amertume qu'il avait par rapport à l'entraîneur de Marseille, par rapport au groupe de Marseille, et donc il essayait d'éclabousser de sa haine tous les nageurs de Marseille, et je pense qu'il n'y a pas une insulte qui est plus violente pour un sportif propre d'être considéré comme dopé. C'est comme si j'ai travaillé, donc je gagne à 25 ans, j'ai fait mes premières longueurs, j'avais 5 ans, donc il est en train d'effacer 20 ans de travail d'une seule ligne où il, en fait... il invente totalement sur aucune base. Donc c'est quelque chose qui m'a vraiment fait beaucoup de mal.
Vous avez purgé ça avec lui un jour ou pas? Jamais?
Non, j'ai jamais eu l'occasion. C'est pas quelqu'un qui est très, très honnête. Donc je pense qu'à chaque fois, il nous a évité dès qu'il en avait l'occasion. J'aimerais discuter avec lui pour savoir pourquoi. Mais en fait, la réponse, je l'ai déjà. Donc voilà, ça sert à rien de parler aux cons, ça les instruit.
Comment peut-on oublier son maillot le jour d'une finale des championnats d'Europe? C'est Romain Barnier, il le répète la boucle. Moi, je l'ai répété que 3 fois, mais vous dites qu'il l'a répété en boucle, que c'était... Et franchement, la question est légitime. Et il y a un côté branleur là-dedans, qui est peut-être votre nature profonde. Hein.
Ouais, c'est un peu ça. J'avais préparé mon sac et mon maillot n'était pas encore sec du matin, donc je m'étais dit je le laisse sécher. Et quand je me suis réveillé de la sieste, je suis parti en prenant mon sac, en oubliant le maillot. Je crois que c'était... alors c'était le maillot d'entraînement, hein, c'était pas la combinaison de compétition, oui. Ça là je l'avais. Mais lui s'est inquiété, est devenu fou, mais moi j'étais complètement tranquille en fait. Je me suis dit, de toute façon, si j'arrive pas à trouver un maillot sur le bord d'une piscine, c'est que vraiment, c'était compliqué. Mais je crois que ça déclenche aussi la tranquillité que je dégageais. C'était pas que... Enfin voilà, je me sentais vraiment bien.
Mais en fait, il n'y en a qu'une qui n'a pas été surprise ce jour-là, c'est votre mère, je suis sûr.
À d'oublier le maillot. Oui. Ah, mais même mon collègue de chambre, Fabien Gillot, il m'a dit, oh, s'il y en a un à qui ça doit arriver, c'est à toi.
Ouais. C'est-à-dire, vous avez ce côté ado attardé, et vous avez 25 ans quand même, hein.
Ouais, je l'avais complètement, ce côté ado attardé. Je vivais mon adolescence à ce moment-là, je pense que c'était à retardement.
Mais normal, puisque en fait, votre adolescence, vous l'avez passée dans les couloirs de natation, à travailler, à vous entraîner. C'est-à-dire qu'il y a un effet décalage pour des gars.
Je sais pas, il y en a certains, je pense, qui l'ont eu à l'âge normal. Moi, c'est vrai que c'est arrivé plus tard. J'ai eu une adolescence à peu près normale. C'est vrai que je passais 20 heures par semaine dans l'eau, mais en dehors de ça, j'ai vraiment pas à me plaindre et je regrette vraiment pas ce parcours que j'ai eu la chance de vivre.
Moi, j'ai bien aimé aussi l'épisode sur la répartition des postes dans le 4x104 nage. Et j'ai découvert à cette occasion que donc, il n'y a pas vraiment un entraîneur de l'équipe de France de natation qui décide. Il y a des chefs de bande de clubs d'entraînement différents et rivaux qui font pression sur l'entraîneur de l'équipe de France pour placer leurs gars. C'est ça.
Bah, c'est-à-dire qu'il y a une règle au départ. C'est le plus rapide de la semaine nage. Mais il y a toujours des entraîneurs qui ont envie de placer leurs nageurs. Et puis, c'est compréhensible. Alain Bernard venait d'être champion d'Europe, donc c'est pas une honte de dire qu'il va nager la finale du 4x104 nage.
Je suis d'accord, oui.
Mais par contre, la règle, c'est celui qui a nagé le plus vite. Fabien Gillot s'était pas qualifié en individuel au 100 mètres, mais avait nagé plus vite lors du relais. Et la règle devait être respectée. Donc, en plus, c'était mon
boss, mon pote de chambre. Mais il y a cette rivalité. Donc, vous êtes Cercle de Marseille. Il y a d'autres clubs d'entraînement comme ça. En fait, il y a une forte rivalité dans la natation française entre ces clubs. Et ça se poursuit jusque dans l'équipe de France.
Il y a beaucoup de rivalité, c'est sûr. Mais c'est entre nous, nageurs, c'est de la rivalité assez saine.
Oui.
C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de respect. Entre les entraîneurs, c'est vrai que c'était un petit peu plus tendu parce que déjà, eux, ils ne règlent pas leur compte dans les bassins.
Oui.
Mais moi, je n'ai jamais eu de tension avec aucun nageur. Voilà, je pense que on sait par où sont passés nos adversaires et donc à partir de là, ça crée une certaine confiance et un certain respect. Donc voilà, nous en natation, ça allait bien.
Non, mais vous êtes du Cercle de Marseille à ce moment-là de votre histoire et vous n'êtes pas pleinement un nageur de l'équipe de France. C'est-à-dire, vous représentez le Cercle de Marseille dans l'équipe. On a un peu l'impression de ça quand même.
Ouais, mais on représente les deux vraiment. Oui, c'est un honneur. Bien sûr, je m'entraîne toute l'année à Marseille. Ouais. C'est la ville qui a fait, c'est le club qui a fait qu'aujourd'hui je suis à ce niveau-là. Et l'équipe de France, c'est vraiment un pur bonheur de participer. Mais si Fabien avait fait un moins bon temps qu'Alain Bernard, même si c'était que quelques centièmes, j'aurais jamais fait le forcing pour que ce soit Fabien qui nage. Voilà, c'est juste que là, en plus, les règles n'avaient pas été respectées, d'où le petit côté boycott, mais ça serait très mal passé parce que c'était juste après les footeux qui étaient restés dans le bus.
Oui, oui.
Et donc, voilà, très vite, on s'est dit...
Il y avait peu de marge.
Ouais, non, mais on savait qu'on n'allait pas le faire, c'était plus un coup de bluff.
Oui.
Mais on est content que les règles aient été respectées ce jour-là.
Alors, qu'est-ce que vous faites aujourd'hui dans la vie, Camille Lacour ?
Aujourd'hui, je fais des interventions en entreprise, où je fais le parallèle entre le monde du haut niveau et le monde de l'entreprise.
La chambre d'appel. En fait, c'est ça. C'est cette théorie, enfin, c'est cet état mental dans lequel vous vous mettez, c'est ça que vous vendez aujourd'hui.
Je crois qu'il y a énormément de points communs entre ce qui se passe dans les entreprises et ce qui se passe dans le sport. Il y a l'échec, la réussite, comment gérer les adversaires, il y a énormément de parallèles. Et j'ai pas envie de me placer en donneur de leçons. Par contre, je donne les expériences aussi de Fabien, de Florent Manedou, et je leur raconte un peu ce que j'ai bien fait, ce que j'aurais pu mieux faire, ce que j'ai pas bien fait. Et donc, j'ai beaucoup travaillé pour pouvoir faire le parallèle avec le monde de l'entreprise et essayer de leur donner le plus de clés possible pour qu'ils s'embourbent pas dans certains problèmes.
Vous pensez faire ça toute votre vie? Ça, c'est une question de maman. Tu vas pas faire ça toute ta vie quand même. Tu vas faire un vrai métier.
c'est vrai que ma mère me l'a posé.
Voilà.
pour l'instant, c'est quelque chose qui me plaît, qui me fascine de déjà sentir que mes 10 ans de carrière au plus haut niveau servent à d'autres gens. Enfin, je vais vous citer un petit exemple. Je descendais à Marseille il y a pas très longtemps et un monsieur qui est venu me voir. Il m'a dit, j'étais à votre intervention à telle date. Je dis, ah super. Il me dit, j'ai quitté mon boulot 2 semaines après. Je dis, oh, j'ai gâché sa vie. Et en fin de compte, il descendait à Marseille pour embaucher son 7e employé. il a monté sa boîte à côté parce qu'il s'est dit, en fait, vous m'avez juste mis le coup de pied au cul, j'en avais besoin, et maintenant je réalise mon rêve. Et là, je me suis dit, waouh, je sers à quelque chose. J'ai servi, même si c'est qu'une seule personne, j'ai servi à ça, et c'est extraordinaire. Donc voilà, aujourd'hui...
Mais vous n'êtes pas encore prêt pour vous lancer, vous aussi, dans une entreprise individuelle qui tourne la page de la natation ?
C'est en cours. J'essaye de monter, je suis en train de monter une boîte d'événementiel... pour faire des partages d'expériences avec des sportifs, pour des entreprises ou même pour des gens.
Pour des gens. La piscine, vous n'y allez toujours pas ?
J'y vais très très peu. Alors là, je vais
la dernière fois que je vous avais vu, je vous avais posé la question, vous m'avez dit « j'y vais jamais ».
C'est vrai.
J'ai plus du tout envie d'aller dans une piscine de toute ma vie.
Non, j'y vais juste avec ma fille pour me baigner et j'y vais une fois par an pour les interclubs que je fais avec le club de Vanves, mon nouveau club à Paris, qui est sur la natation pour tous. Donc voilà, un projet qui me plaît bien. Et
vous restez fité quand même, donc vous faites un peu de sport.
Ouais, je fais beaucoup de sport. J'ai fait l'Ironman de Nice l'été dernier.
D'accord.
Je cours, je fais un peu de salle, mais très loin de ce que je faisais à l'époque.
Merci beaucoup d'avoir accepté de revenir sur cette autobiographie publiée il y a quelques mois, 50 nuances de bleu, signée Camille Lacour aux éditions Michel Lafon.
Des centaines d'histoires disponibles sur vos plateformes d'écoute et sur europe1.fr.